Radio Campus 106,6 FM, comme chaque mercredi entre 17h30 et 18h, vous avez rendez-vous avec Lila Info, le magazine sur l'Université de Lille, réalisé par Radio Campus avec le partenariat de l'Université de Lille. Cette deuxième émission consacrée à Lila depuis la rentrée, eh bien nous accueillons aujourd'hui Nabil El Aghar, qui est vice-président chargé de la culture, de la communication et du patrimoine. Bonjour Nabil.
Bonjour.
Donc c'est la rentrée. La semaine dernière, on a eu l'occasion de parler d'une exposition qui se tient actuellement à l'espace culture sur justement le patrimoine scientifique, tous ces objets extraordinaires qui ont servi pour les expériences, les travaux des chercheurs, des savants, notamment Louis Pasteur. Voilà, je pense quelque chose dont tu es très fier.
Absolument, je suis très fier et je suis surtout quelque part rassuré de fait que nous commençons à enfin accomplir ce qu'on croyait être impossible, à savoir que, tu sais, René, dans l'université française, doit être une parmi les rares universités occidentales dans le monde qui ne se vit pas comme étant une institution culturelle en soi. Et ce faisant aussi, à cela s'ajoute le fait que cette même université, qui est la nôtre au sens large, est une université qui n'avait pas pris conscience de l'importance du patrimoine, de son propre patrimoine. Et ce qui fait que les dégâts et la disparition de patrimoine dans les universités françaises est une vraie catastrophe et qui d'ailleurs, enfin, devient une question nationale aujourd'hui et que j'espère que les responsables étatiques vont mettre les moyens et comprendre qu'on ne peut pas avancer dans le présent sans tenir compte du passé. Et sinon, autrement, on risque de faire n'importe quoi. En tout cas, sans passé, il n'y a pas d'avenir. Et voilà. Et nous, ici, depuis déjà maintenant plusieurs années, on a fait un travail de conscientisation de nos enseignants-chercheurs sur le patrimoine, sur le personnel lui-même qui manipule le patrimoine, supposé être inutile puisqu'il ne sert plus. Et finalement, petit à petit, on a réussi à ce qu'aujourd'hui le patrimoine soit préservé. Ce n'est pas gagné totalement. Et on a réussi surtout à ce que les uns et les autres se rendent compte de l'importance de patrimoine. Et nous avons réussi, avec l'aide, particulièrement aussi l'aide de nos anciens qui se sont eux aussi mis à sauver ce patrimoine, à sauver et à inventorier plus de 400 pièces majeures de notre patrimoine. On a perdu beaucoup, mais déjà ça. Et voilà, une partie de ce patrimoine a été exposé, et encore exposé à l'espace culture, et qui prend à peu près, ça va de Pasteur de 1850, on va dire, quand elle était doyen de la faculté des sciences à l'époque, jusqu'à aujourd'hui.
Alors, c'est vrai qu'on voit des instruments qui ont été utilisés, qui sont magnifiques, hein, rutilants, cuivre, etc. C'est un autre monde. Hein.
C'est un autre monde, oui. C'est un autre monde et tout en étant un monde en réalité. On a l'impression effectivement, hein, puisqu'on a perdu cette tradition, cette habitude, et on a perdu le sens même du patrimoine dans notre, surtout nos générations depuis une cinquantaine d'années, on va dire. Alors effectivement, ça nous paraît complètement comme étant un monde étranger, alors qu'en réalité, ce n'est pas seulement un monde non étranger, mais c'est notre propre passé. Ce qui fait que c'est avec, sans ces patrimoines-là, on n'aurait pas pu arriver là où nous sommes arrivés. Parce que c'est avec ce patrimoine-là que l'enseignement et la recherche, il y a 40 ans, 50 ans, 100 ans, a été comprise et transmise aux générations qui ont suivi.
Alors, c'est vrai que dans 100 ans, on ne sait pas exactement ce qui restera du patrimoine actuel, de ce qui sert aux chercheurs de l'Université Lille. Ça, il y a déjà une réflexion là-dessus.
Ce que dont on est sûr, c'est que toute recherche actuelle qui se passe aujourd'hui est toute produit de patrimoine, et que ce patrimoine deviendra un patrimoine qui expliquera dans 20 ans ou dans 30 ans le comment on avait travaillé 30 ans auparavant et pourquoi 30 ans auparavant on a pu produire ceci et pas cela.
Donc on demande aux chercheurs dans leur labo de bien réfléchir à ce qu'ils ont entre les mains et de savoir si ça vaudrait le coup de les préserver, ces objets, ces outils, pour les siècles à venir.
Je suis un peu plus précis, si je peux me permettre. Je leur demande de ne pas prendre la décision de l'avenir du patrimoine en question. Il ne leur appartient pas. Ce patrimoine, il appartient à la communauté, il appartient à la civilisation qui est la nôtre, et donc par voie de conséquent, toute pièce, tout appareil qui sert aujourd'hui et dont on n'a plus besoin, il doit être mis de côté et jamais jeté. Et ce sont les générations qui vont suivre qui vont décider de quoi garder et ne pas garder. Parce que c'est comme ça que nous pouvons garantir que notre patrimoine sera préservé, ou en tout cas les traces essentielles qui seront suffisantes pour tracer l'avenir en fonction du passé et donc cet héritage, parce que c'est un héritage. C'est exactement comme si, on était dans une famille et qu'on a un héritage. Que fait-on? On jette ou on garde? C'est une question de volonté et de voir si on a envie de garder des traces de nos parents, nos grands-parents et nos anciens. Et comme nous sommes ici, ne pas dans une famille au sens privé, mais on est dans une famille publique, dans ce cas-là, par définition, nous n'avons pas le droit de décider de ne pas garder nos traces, de ne pas préserver notre patrimoine, puisque c'est un patrimoine commun, c'est un patrimoine collectif, c'est un patrimoine public et par voie de conséquent, il n'appartient à personne, il appartient à la communauté. Et la communauté, c'est la nation française dans toutes ses dimensions. Donc, personne n'a le droit de jeter quoi que ce soit.
Donc, ça y est, c'est la rentrée à Lille 1 comme dans d'autres universités. Lille 1 crée des événements. On va parler dans quelques instants d'une conférence inaugurale. Et Lille 1, c'est à la fois un espace culturel avec un projet artistique et culturel. Et c'est aussi des conférences, des débats, et puis aussi une activité qui est celle de l'université d'une manière générale. Au niveau de la communication, qu'est-ce qui va se préciser dans les semaines, dans les mois qui viennent, Nabil El Agha?
Il y a une chose déjà très très importante, puisque c'est une première, en tout cas pour Lille 1. Tu sais, il y avait il y a toujours eu, à travers les siècles passés, une tradition qui était une tradition universitaire, que ce qu'on appelle, à chaque ouverture de saison universitaire, il y avait, on invitait un grand intellectuel pour donner ce qu'on appelait la leçon inaugurale de l'université. Autrement dit, on faisait confiance à quelqu'un qui pouvait nous apprendre de choses. En général, il posait des questions générales, il parlait, il posait un regard sur le monde, il faisait du bilan, il pouvait donc donner à la saison universitaire un sens de démarrage, en quelque sorte, pour que l'université accomplisse sa mission initiale, sa mission essentielle, c'est de poser un regard critique sur la société.
Voilà, donc ce point d'appui cette année, c'est...
Voilà, alors, et cette tradition-là a complètement disparu dans l'université française, et nous avons décidé de renouer avec cette tradition et de donner une leçon inaugurale, une conférence inaugurale de la saison universitaire de Lille. Hein. Et là, nous avons demandé à M. Edgar Morin de venir donner cette conférence inaugurale, qui donc il a bien accepté. Il viendra la donner le 4 octobre à 16h à l'Espace Culture.
Est-ce qu'il a carte blanche ou il a déjà, des thèmes, ou un thème plus précis qui se dégage?
Il a carte blanche, bien entendu, mais en même temps, il a défini quelques pistes sur lesquelles il voudrait travailler et parler. Il parlera de la disjonction culturelle et il parlera de la culture humaniste d'une manière générale. Voilà ce qu'il a souhaité, en tout cas, donner comme indication au jour à cette conférence.
Il a choisi ces thèmes en fonction d'une certaine urgence, d'une certaine envie de compenser un manque, des choses qui...
Je pense que c'est un peu dans la continuité de ses travaux, hein, d'une manière générale, depuis de longues années, depuis la méthode, la fameuse travail qu'il nous a délégué, la méthode à aujourd'hui, il s'était toujours intéressé sur le problème d'une culture planétaire quelque part, et il s'est intéressé sur le fait comment l'humanité peut avoir une culture qui verse dans la compréhension mutuelle plutôt que dans la disjonction, hein, quelque part. Donc je pense que c'est sur ces thèmes-là qu'il va concentrer et centrer plutôt son intervention.
Voilà, donc une conférence à base d'humanisme.
Et voilà, exactement, oui, tout à fait. Et cette conférence sera suivie à 18h par la rentrée culturelle de l'université, où là, les artistes et tous ceux qui participent à la saison culturelle de notre université seront présents, présenteront ce qu'ils vont faire. Et moi, je peux dire là, si tu veux, dire que à cette saison culturelle, bien entendu, nous parlerons comme d'habitude nous organisons les fameuses conférences d'Archimède, et cette année les thématiques sont, on a deux thématiques comme chaque année, c'est une qui va traiter de la thématique raison, folie, déraison. Et là, il y aura une série de conférences dont l'ouverture aura lieu le 18 octobre à 18h30, et elle sera donnée par le philosophe Pierre Macheret. Et le deuxième thème est un thème sociétal, comme d'habitude. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, on fait toujours de sorte qu'il y ait deux thèmes. Un thème, je dirais, intemporel, philosophique au sens large du terme, mais accessible à tout public, bien entendu. Et le deuxième thème est en général un thème sociétal, aussi évidemment accessible à tout public. Et cette année, le thème sociétal, c'est un thème que l'on a intitulé « Quel devenir pour le travail social ?». Et la conférence inaugurale sera donnée par Joël Roman, philosophe et essayiste, le 11 octobre à 18h, à 18h30. Voilà, ce sont les rendez-vous d'Archimède. Et bien entendu, il y a la saison artistique qui accompagnera ces deux thématiques. Et là, on pourra, sachant que je n'ai pas beaucoup de temps à ma disposition, on pourra en reparler dans une émission future, sans aucun doute. Par contre, ce que je peux aussi ajouter est que on a deux journées d'études qui vont avoir lieu au mois de novembre. Je citerai très rapidement la première. C'est une journée qui est en rapport direct avec l'université et l'avenir de l'université, et que l'on a intitulé « Refonder l'université ». Cette journée va accueillir justement ce qu'on a appelé, si tu le sais ou si on se souvient, pour beaucoup d'entre nous se souviennent des refondateurs de l'université, à leur tête Alain Cayet, professeur de sociologie à Paris, qui viendra ouvrir cette journée d'études qui aura lieu le 16 novembre 2011, donc prochain. Et cette journée de refondation de l'université, ça me semble un acte fondateur pour nous aussi et important, parce que pendant cette journée, on va discuter de l'avenir de l'université française, sur lequel on peut raconter énormément de choses, de bonnes choses, mais aussi on peut imaginer qu'elle a encore beaucoup de choses à accomplir. Donc cette journée d'études aura lieu le 9 non, qu'est-ce que je dis
le 16 novembre.
Et puis et bien entendu, c'est ouvert au grand public, mais il faut s'inscrire parce qu'il n'y a pas toujours de la place. Donc le public de Radio Campus peut très bien appeler à l'espace culture et s'inscrire à cette journée. Puis une deuxième journée d'études qui aura lieu le 24 novembre 2011, qui est une journée qui va traiter de la culture scientifique. Et cette journée pose la question, je dirais, de la question suivante. Peut-on parler de culture scientifique? Et si on peut parler de culture scientifique, quelle est cette parole que l'on propose à nos enfants, mais aussi aux enseignants, aux écoliers et aux enseignants-chercheurs qui veulent bien participer à cette volonté de vouloir poser la question de la connaissance scientifique, parce que la connaissance scientifique est difficile d'accès, car pour la comprendre, il faut suivre un certain cheminement. C'est le rôle de l'école de donner aux élèves le moyen de suivre ce cheminement. Hors de l'école, on peut toujours faire de la vulgarisation, mais cela ne se borne pas à la bonne volonté du vulgarisateur. En ce sens, la vulgarisation risque d'être un piège, autant pour ceux qui la font que pour ceux à qui elle s'adresse. C'est également dans ce piège que la culture scientifique pourrait tomber. C'est autour de cette problématique-là que cette journée de culture scientifique, qui invite plusieurs professeurs, dont notre collègue Rodolphe Couche, le épistémologue et historien des sciences Jean-Marc Lévy-Leblon. On va parler d'exploitation politique aussi, économique de la science, parce que nous pensons qu'il y a une grande exploitation politique de la science aujourd'hui dans notre pays, avec la présence de Claudia Neuber, directrice de fondation Sciences Citoyennes, de Bernadette Pinsot, Vincent, professeur des universités à Paris, enfin, etc. Je ne vais pas être très long, mais donc la question sera posée sur ces questions de culture scientifique. Et ce faisant, sur l'accès à la science elle-même.
Donc, on l'a bien compris, la vulgarisation ou tout ce qui est d'accès, tout ce qui est un accès à la science vu par les médias ou autres, c'est pas ça qui structure un esprit scientifique, et ça, c'est un peu le propos des professionnels, on va dire, de l'enseignement des sciences, notamment à l'université.
Oui, nous pensons que il y a quelque part un aspect de cette. C'est un peu comme pour la culture, parce que bon, c'est vrai qu'on a en France, on s'éclate à vouloir séparer les choses, mais en réalité, la culture scientifique fait partie de la culture d'une manière générale, et on se rend compte qu'elle subit aussi à peu près les mêmes dégradations. J'entends par là que on fait croire que accéder à la culture, y compris à la culture scientifique, est une affaire justement de ce qu'on a appelé la vulgarisation, que ce soit la vulgarisation théâtrale, ou que ce soit la vulgarisation artistique, ou que ce soit la vulgarisation dite scientifique. C'est-à-dire, il suffit qu'on dise les choses, il suffit qu'on aille au théâtre pour accéder à la culture artistique, il suffit d'aller ici et là pour accéder à la culture s'opposer ouverte et accessible. Et nous pensons que c'est vrai que c'est toujours nécessaire et utile d'aller dans les théâtres, dans les salles de spectacle, et d'aller dans les forums scientifiques divers et variés, mais que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que l'accès à la culture d'une manière générale nécessite effort.
Alors, cet effort, là, on va entrer en période électorale, on va dire. Est-ce que, justement, tous ces gens qui veulent accéder au pouvoir ne devraient pas passer un minimum de tests de compétences ou de connaissances sur leur capacité à comprendre les évolutions scientifiques et où va le monde et comment faire que ce monde soit, pour les générations futures, digne d'intérêt?
Ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux. D'ailleurs, avant toute chose, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je trouve ça serait une très bonne proposition. Qu'ils se cultivent pour qu'ils comprennent comment la science fonctionne, comment la culture fonctionne, comment l'accès à la culture et à la science fonctionne. Et peut-être une des premières choses que nos politiques devraient faire, c'est d'abord et avant tout se débarrasser de ce besoin d'instrumentalisation permanente du public pour continuer à gouverner. Et ce qui nous ramène à la question de la démocratie et du fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'accès à la science, c'est possible, et le fait de dire qu'il faut fournir un effort ne veut pas dire qu'on décourage les gens d'aller dans les universités ou d'aller fournir cet effort. Simplement, il ne faut pas se moquer de gens en leur faisant croire que tout est accessible sans aucun effort. Ce n'est pas parce que j'écoute une conférence que je vais maîtriser totalement la situation. C'est comme d'ailleurs dans un cours à l'université, il suffit, ce que je dis toujours aux étudiants, ce n'est pas, si vous comprenez 20% de ce qu'on vous raconte, c'est déjà pas mal. Ceci étant, il vous appartient de continuer votre effort, de continuer à travailler pour accéder, de passer de 20 à 40, de 40 à 60. Et c'est comme ça que l'humanité s'est développée depuis que le sapiens sapiens est sur Terre. Voilà, et on n'est pas sorti de ça. La difficulté de point de vue politique, c'est de contourner ces évidences et ces choses incontournables, indispensables pour nous tous et pour la bonne marche de notre société, de les contourner pour proposer pour parler des situations qui laissent croire, enfin qui sont des situations trompeuses quelque part.
Alors dans ce cadre, effectivement, cette culture scientifique peut être remise en phase avec la question de refonder l'université. Est-ce que on pense dans ce concept la refonder sur ses valeurs premières ou la refonder sur les besoins émergents?
Non, nous, quand on parle de refondation de l'université, nous pensons de refonder l'université sur vraiment sur les questions premières, on peut dire ça, c'est-à-dire une université, c'est pour quoi faire? Une université, c'est pour quoi faire? Quel rapport qu'a l'université, devrait avoir une université avec la cité, avec la société? Voilà, et là, il y a débat, bien entendu. Tout le monde ne pense pas forcément les choses de la même manière. Mais moi, quand je pensais à ces journées-là et à l'organisation de ces journées, dans mon esprit, qui n'est que la mienne, bien entendu, je pensais, et suite à mon expérience universitaire et de rapport qu'a la culture, ici même chez nous, avec l'institution universitaire et vice-versa, je crois qu'il est temps que l'université revoie et en tout cas rediscute, pas forcément, parce que c'est pas forcément revoir au sens changer ce que nous faisons complètement, mais simplement il est temps, il est bon de se donner de moments de discussion, de moments de discussion et de confrontation sur nos missions premières et qui sont l'enseignement, la recherche, la culture et le, bien entendu, cette diffusion culturelle sur la cité, sur la société. Et est-ce que nous accomplissons cela comme il faut? Est-ce que nous nous donnons le moyen pour le faire comme il faut? Et puis, quelle culture interne à la même, à la communauté universitaire elle-même? Quel rôle intellectuel joue notre communauté universitaire à l'interne vis-à-vis de nos étudiants, mais aussi vis-à-vis de la cité qui nous regarde malgré tout et qui attend sans doute beaucoup plus qu'elle obtient de la part de son université.
Voilà, alors quand tu dis, Nabil El Aghar, que la cité nous regarde, eh bien effectivement elle peut venir vous voir, mais elle peut aussi regarder tout ce qui se passe avec la vidéo, puisque l'université de Lille a un site web sur lequel figurent toutes les conférences en vidéo et qui sont accessibles à toutes gratuitement.
Absolument.
Et dans leur version non expurgée. Profitons-en.
Absolument.
Merci Nabil El Aghar pour cette conférence de rentrée sur Radio Campus. On aura l'occasion donc de revenir pour la conférence inaugurale. On va repréciser le jour, l'heure et le lieu.
D'accord.
Donc c'est...
C'est le 4 octobre à 16h à l'espace culture de l'université Lille 1.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci.